c'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président de l'université Panthéon-Sorbonne pourrait faire appel au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'évacuation du site de Tolbiac. Georges Haddad accuse les militants qui l'occupent d'avoir déjà provoqué pour près d'1 million d'euros de dégâts. Nous l'entendrons, ainsi que l'analyse de Catherine Pétillon. Blocage et maintien des tensions aussi sur le site de Notre-Dame-des-Landes, avec les occupants de la ZAD qui décident à l'instant de répondre favorablement à la proposition de rencontrer la préfète de la région des Pays de la Loire. On retrouvera sur place Damien Triomphe. À la SNCF, reprise de la grève dès ce soir et pour 2 jours encore, donc, alors que l'Assemblée nationale vote le projet de réforme ferroviaire, les syndicats dénoncent un passage en force. On va faire le point avec Hakim Kasmi. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Emmanuel Macron expose une nouvelle fois son projet pour l'Europe. Face à l'autoritarisme qui partout nous entoure, affirme-t-il, la réponse n'est pas la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. Explication commentaire de Stéphane Robert. Les États-Unis et la Grande-Bretagne qui émettent une alerte conjointe face à une activité cybernétique malveillante en provenance de la Russie qui viserait administration et infrastructure. Correspondance à Londres d'Antoine Gignot, l'invité de la séquence interview, Roxane Lundy, qui est la présidente du mouvement des jeunes socialistes. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Il y a les formes visibles de la violence et les beaucoup moins visibles, moins apparentes. On en parlera notamment à travers l'exemple de l'université que vous abordez dans votre journal, Antoine Mercier. Nouvelle forme, nouvelle logique. Comme l'explique notre invité, il est historien des idées. Il s'appelle François Cusset et il vient de signer Le déchaînement du monde à la découverte. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Le mouvement de protestation donc dans les facultés se poursuit cette semaine. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a 4 établissements qui sont toujours bloqués, entre 10 et 12 sites qui sont perturbés par des étudiants opposés à la loi réformant l'accès à l'université. Le mouvement ne s'étend pas vraiment, mais il pourrait bien se durcir. En tout cas, il y a plusieurs présidents qui demandent l'évacuation de sites, notamment le cas du président de l'université Paul Valéry de Montpellier, qui est bloqué depuis la mi-février. La forme que prend le mouvement, dit-il, nous met dans l'impossibilité d'assumer les mesures de police ordinaire qui incombent à un président d'établissement. Il faisait notamment allusion aussi à cette attaque des serveurs informatiques commise mercredi dernier qui a entraîné la suspension des examens dématérialisés. Et puis, il y a le président de l'université Panthéon-Sorbonne ce matin qui déclare qu'il pourrait lui aussi faire appel au ministère de l'Intérieur pour obtenir l'évacuation du site de Tolbiac. Invité de CNews ce matin, Georges Haddad accuse les militants qui l'occupent d'avoir déjà provoqué près d'1 million d'euros de dégâts. On l'écoute.
C'est un vrai capharnaüm, la violence, la drogue, le sexe même. Tous les personnels qui travaillent à Tolbiac sont exclus du centre. Ils ne peuvent plus accéder à leur bureau. Les occupants filtrent l'entrée. Les étudiants qui veulent étudier ne peuvent plus étudier depuis 3 semaines. Les personnels administratifs ne peuvent plus administrer. Et les enseignants, bien sûr, ne peuvent plus
enseigner. Ils sont combien les occupants ?
Ça peut varier d'une 50aine à 250 en jour plein. Les week-ends, nous avons des fêtes, des centaines de jeunes viennent festoyer. Il faut voir aujourd'hui l'état du centre, il est complètement dégradé. On en a pour des centaines de milliers d'euros pour remettre le centre en état. C'est pré-insurrectionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Donc j'ai fait appel à la préfecture de police pour qu'elle intervienne, parce qu'il est de ma responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
C'est-à-dire
je ne suis plus en mesure de le faire.
Georges Haddad, c'était avec Jean-Pierre Elkabbach. Ce matin, Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
On voit le mouvement qui pourrait se durcir et qui risque aussi de déraper.
Oui, une douzaine d'établissements perturbés, certains complètement bloqués, et une situation qui se tend, comme à Nanterre, en région parisienne, où les cours et examens du jour sont à nouveau annulés. L'administration travaille aux modalités concrètes du report et le président de l'université, lui, condamne ces blocages. À Rennes, pas non plus de cours ni d'examens. Le blocage a été reconduit jusqu'à la fin du mois. À Montpellier, ce matin, la fac a été rouverte malgré le blocage et les partiels ont commencé. Et à Tolbiac, on entendait donc le président de l'université, l'UNI, le syndicat étudiant de droite, a déposé un nouveau recours contre la préfecture de police de Paris pour obtenir le déblocage du site, estimant, je cite, que le durcissement de cette occupation débouchera inexorablement sur la création d'une ZAD en plein Paris. La situation s'enquiste parfois avec le mécontentement d'un certain nombre d'étudiants qui veulent passer leurs examens à Strasbourg alors qu'une AG a voté la reconduction du blocage. Le président de l'université a appelé l'ensemble des étudiants à se prononcer via un vote électronique.
Alors, les étudiants qui ne sont pas toujours seuls, il y a certains enseignants qui les ont rejoints, puis il y a aussi des militants politiques qui se montrent aussi très actifs.
Oui, enfin, ce n'est d'ailleurs même pas qu'un soutien, un grand nombre d'enseignants-chercheurs dénoncent eux-mêmes une sélection à l'entrée à la fac introduite par la loi Vidal, si bien que l'opposition ne se limite pas au blocage d'établissements, ce n'est qu'une modalité. Certains enseignants ont refusé de siéger dans les commissions chargées d'examiner les vœux des bacheliers. D'autres ont choisi de classer ex aequo tous les élèves. C'est ce qu'ont fait plusieurs UFR de l'Université de Nantes. Or, la présidence de l'université a expliqué qu'elle allait dissoudre les commissions qui avaient fait ce choix. C'est ce que rapportent ce matin les syndicats SU d'éducation et FSU. Et ils appellent les enseignants à la grève dans le cadre de la mobilisation interprofessionnelle jeudi. Contactée ce matin, la présidence de l'Université de Nantes n'a pas encore apporté de précision ni d'explication sur ce sujet. Une telle intervention sur la gouvernance de l'université serait en tout cas complètement inédite. D'autres présidents d'université ont décidé que serait donné un avis favorable à tous les candidats. Ils refusent de trier les dossiers des futurs étudiants, soit pour des raisons politiques, soit par manque de temps ou de moyens. C'est le cas à Poitiers, Rouen, Lyon 2, Bordeaux ou encore Pau. Un signal à suivre, même si cela reste à ce jour minoritaire. C'est donc la première question, comment va évoluer la mobilisation contre la loi en elle-même. L'autre interrogation, c'est ce mécontentement autour de l'université. Nourrira-t-il une mobilisation politique plus générale, comme l'espèrent un certain nombre de responsables politiques et syndicaux, ce qui n'est pas encore vraiment le cas pour l'instant.
Catherine Pétillon, merci beaucoup. Bonjour Roxane Lundy.
Bonjour.
Présidente du mouvement des jeunes socialistes. Je crois que vous étudiez à Nanterre. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation? Le président de l'université donc, de Paris-Sorbonne disait pré-insurrectionnel. C'est ce que vous percevez, vous aussi?
Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une mobilisation étudiante extrêmement forte avec des étudiantes et des étudiants qui n'ont aucunement envie, en tout cas, de renoncer aux revendications qu'ils portent, qui sont des revendications justes, qui sont simplement demander en fait, le droit à un meilleur avenir et au droit d'aller à l'université quand on a eu le baccalauréat. Ça me semble être la moindre des choses. Et face à des revendications qui sont aujourd'hui justes, qui touchent au plus profond, en tout cas, de nos revendications, de notre droit à un meilleur avenir et à une émancipation, eh bien, on a finalement un gouvernement qui refuse de nous entendre. Et donc, forcément, la situation est celle que nous connaissons aujourd'hui.
Vous êtes pour une politisation du mouvement aussi?
Alors, je ne suis pas pour une politisation du mouvement. Ce mouvement était bien sûr éminemment politique. C'est éminemment politique aujourd'hui que de demander des droits quand on est étudiante et étudiant, que de demander à ce qu'on nous donne finalement les moyens de notre émancipation. Vous savez, on a demandé au gouvernement d'investir massivement dans nos facs et puis finalement ce sont les CRS qui ont investi nos amphis. Donc dans ces conditions, forcément, on a une situation extrêmement tendue.
Alors vous êtes étudiante en philosophie, je crois?
Oui, tout à fait.
Et donc vous vous intéressez aussi au rapport, enfin de ce que mai 68 a laissé comme trace dans l'histoire de la philosophie. Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire?
Oui, bien sûr qu'il y a un rapprochement à faire. Aujourd'hui, on est dans une situation avec un ensemble d'étudiantes et d'étudiants qui se mobilisent contre la sélection à l'université, parce que derrière le beau mot de méritocratie que nous propose le gouvernement, il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien évidemment la généralisation de la sélection à l'université qui est en train d'être mise en place par Parcoursup. Et face à ça, il y a bien sûr un choc entre le projet de société qui nous est proposé par le gouvernement, qui aujourd'hui va entraver nos conditions d'éducation, va entraver notre avenir, et les revendications juste et légitime des étudiantes et des étudiants qui demandent simplement à ce qu'on nous demande les moyens d'étudier dans de bonnes conditions et qu'on nous donne les moyens de le faire.
Voilà, on reviendra sur ce projet de société tout à l'heure, si vous voulez bien, Roxane Lundy, dans la dernière partie de ce journal, dans la séquence interview. Blocage et maintien des tensions aussi sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Depuis ce matin, il y avait des équipes de gendarmerie mobile qui menaient des opérations pour démonter les barricades construites par des zadistes, les gendarmes qui veulent reprendre le contrôle notamment d'un rond-point stratégique au cœur de la ZAD. Il y a eu des affrontements qui ont eu lieu ce matin. Les occupants se disent toutefois maintenant favorables à une rencontre avec la préfète, et ce dans les meilleurs délais. On est en ligne avec Damien Triomphe qui est sur place. Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que le mouvement là est un palier, mais ça s'apparente un peu à une guerre d'usure.
Oui, parce que vous le disiez Antoine, les gendarmes détruisent, les zadistes reconstruisent tous les jours. C'est le même scénario depuis la fin de la semaine dernière. Il y a ce croisement stratégique dont vous parlez, c'est la Saulce, c'est au cœur de la ZAD, un carrefour duquel part un chemin qui relie les deux départementales qui traversent la zone. Chaque jour et la nuit, les zadistes et leur soutien montent des barricades à cet endroit. Chaque matin, les gendarmes reprennent le contrôle du secteur et détruisent ces barricades. Hier, les occupants et leur soutien se sont préparés du mieux qu'ils pouvaient. Une tranchée d'une cinquantaine de mètres de long a été creusé dans un champ à côté, avec des piquets plantés pointés vers l'avant. Des barricades de tôles, de branchages ont été installées. Une tranchée a été même creusée sur la route dans le bitume. Et ce matin, à 8h, ils étaient quelques dizaines de zadistes avec leurs bouteilles, leurs pierres, leurs cocktails Molotov pour défendre l'endroit. Plus de 150 gendarmes mobiles sont arrivés. Ils ont dispersé tout le monde à coups de grenades lacrymogènes, ont détruit les barricades avec leurs véhicules blindés. Et des engins de travaux sont arrivés pour reboucher la tranchée du bitume. Le rapport de force n'est pas le même. D'ores et déjà, les zadistes et les soutiens, parce que les soutiens arrivent et repartent, hein, toujours, c'est très tournant côté zadiste, ils rebâtiront leurs barricades. L'hélicoptère qui survole la zone les repérera et les gendarmes reviendront et ainsi de suite. Voilà la guerre d'usure qui se joue à Notre-Dame-des-Landes. C'est pour sortir de cet engrenage que certains, et je dis bien certains parce que n'oublions pas que côté que ce qu'on appelle les zadistes, c'est plutôt un ensemble assez hétérogène. Mais certains se disent désormais prêts à rouvrir les discussions avec la préfète.
Damien Triomphe, merci beaucoup en direct donc du site de Notre-Dame-des-Landes. Des violences la nuit dernière dans le quartier du Mirail à Toulouse. Selon un communiqué de la préfecture, les forces de l'ordre ont été prises à partie tout au long de la nuit et ils ont procédé à 18 interpellations pour des faits donc de violence, de destruction de biens par incendie et d'outrage, des violences qui auraient été déclenchées par une rumeur selon laquelle les gardiens de la prison de Seis, c'est dans le sud, au sud de Toulouse, auraient été à l'origine du décès samedi d'un détenu originaire du quartier. Mais il n'y a pas que cela, Frédéric Bourgade.
Il y a deux raisons à ces violences. La première, le contrôle d'identité d'une femme portant le niqab. Elle a refusé de se dévoiler devant les policiers et une vidéo la montre à terre, ceinturée par deux policiers. Le second fait, c'est la mort par pendaison d'un jeune de 26 ans à la maison d'arrêt de Seis. Il était en quartier disciplinaire pour des violences sur un gardien. Très vite, la rumeur affirme qu'il est mort à cause des gardiens, rumeur reprise hier soir par ce jeune émeutier.
Les matins, ils ont bombé un détenu à Seis. Nous, on se venge.
Qu'est-ce que ça veut dire bomber un détenu?
Ben, ils l'ont tué. Et
c'est pas suicidé?
Non, ben ça c'est ce qu'ils disent. Déjà, quand ça se passera bien dans les prisons, on ne viendra pas mettre le zbeul dans les cités.
La pénitentiaire a ouvert une enquête interne, les surveillants ont été entendus, une autopsie sera faite. Mais la violence a aussi une autre explication. Depuis des semaines, les policiers sont en effet sur le terrain, une présence qui gêne le trafic de drogue, explique Didier Martinez, syndicaliste policier.
Il y a eu de conséquentes saisies de substances, il y a eu des interpellations, et ces gens-là qui considèrent que leur territoire est outragé par la présence policière, réagissent avec ce climat de tension et d'hostilité dès qu'il y a trop de forces de l'ordre à leur goût.
Les policiers espèrent de la justice des sanctions contre les 18 lanceurs de pierres et de Molotov interpellés.
Enquête de Frédéric Bourgade. À la SNCF, c'est la reprise de la grève dès ce soir, donc pour deux jours à nouveau, alors que l'Assemblée nationale adopte le projet de réforme ferroviaire sans doute ce soir. Première lecture, les syndicats parlent de passage en force et Hakim Kasmi réaffirme leur détermination. Il n'y a pas vraiment de déblocage à l'horizon.
Eh bien non, Antoine, même si le nombre de grévistes a légèrement baissé vendredi et samedi, il était de 65% chez les roulants contre 77% au début du mouvement, les syndicats se sont préparés à une grève longue, d'où ce préavis de 3 mois jusqu'à la fin juin. Et malgré le vote cet après-midi, pas question de céder pour eux face au gouvernement. Et ce, même s'il y a eu des discussions pour faire évoluer le texte, on est passé par exemple de 8 à 28 articles, on est encore loin du compte, à commencer par la question du statut de cheminot qui concerne aujourd'hui 146 000 personnes. Pas question de retirer ce statut aux nouveaux entrants, comme le souhaite Matignon. Idem pour le sac à dos social, puisqu'à partir de l'ouverture à la concurrence, pour les TER en 2023 et les TGV en 2020, les salariés concernés qui perdront l'appel d'offres, la SNCF plus précisément, devront aller dans l'entreprise qui aura décroché le contrat. Les syndicats ne veulent pas y croire, et ce, même si cela se fera sous la base du volontariat. Quant à la question de la dette, l'intersyndicale souhaite qu'elle soit intégralement reprise par l'État. Sur ce point, Emmanuel Macron se dit prêt à faire un geste, mais sans donner le montant exact. Enfin, sur le statut de la SNCF, qui va changer pour devenir une société à capitaux par action publique, là aussi, les syndicats sont contre, car pour eux, c'est la porte ouverte à la privatisation.
Merci Hakim Kasmi. Le principal syndicat de pilotes Air France rejette ce matin les propositions faites par la direction hier d'une hausse de salaire de 2% pour 2018, puis de 5% entre 2019 et 2021. Le président de la SNPL estime qu'il s'agit d'une proposition en trompe-l'œil avec une proposition de 2% d'augmentation qui veut hypothéquer l'avenir en fixant à l'avance les augmentations du futur. Et puis selon la direction, 70% des vols seront assurés demain mercredi. La révision constitutionnelle ne pourra pas se faire sur l'abaissement des pouvoirs du Parlement, c'est ce qu'affirme ce matin Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va demander à Emmanuel Macron donc que le projet de loi qui réforme les institutions, tel qu'il a été envoyé au Conseil d'État, soit réexaminé. Selon lui, une lecture attentive montre une vraie réduction des pouvoirs du Parlement, en particulier sur la manière dont on peut déposer des amendements. Et ça, ce n'est pas possible. Fin de citation donc de Gérard Larcher. Devant le Parlement européen, aujourd'hui réuni à Strasbourg, le chef de l'État exposait une nouvelle fois son projet pour l'Europe face à l'autoritarisme et qui partout nous entoure, affirme-t-il. Eh bien, la réponse, ce n'est pas la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. Emmanuel Macron appelle à une souveraineté réinventée de l'Europe face à la tentation autoritaire. Extrait de son discours.
C'est ici que nous devons ancrer la renaissance d'une Europe portée par l'esprit même de ses peuples. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. Et j'appartiens à une génération qui est en train de s'offrir le luxe d'oublier ce que les prédécesseurs ont vécu. Mais je viens aussi d'une terre et d'une famille qui a connu toutes les saignées de notre histoire passée. Alors les choix sont simples. Moi, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Mais je veux appartenir à une génération qui aura décidé fermement de défendre sa démocratie. Parce que c'est un mot qui a tout son sens, parce qu'il est le fruit de batailles passées. Je veux appartenir à une génération qui défendra cette souveraineté européenne, parce que nous nous sommes battus pour l'avoir. Et je ne céderai à aucune fascination pour les souverainetés autoritaires. Je ne céderai à aucune facilité des temps présents. Mais je pense qu'ensemble, notre responsabilité dans les mois à venir, c'est d'organiser le vrai débat européen.
Voilà, pas de fascination donc pour l'autorité. Emmanuel Macron ce matin à Strasbourg. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors après son discours, le chef de l'État a répondu aux questions des députés. Enfin, il y a eu plusieurs interventions, des présidents de groupe notamment. Le discours finalement a été plutôt bien accueilli sur le fond. Enfin, le plaidoyer pro-européen par ceux qui sont favorables évidemment à la construction européenne, mais parfois critiqué sur la manière.
Oui, d'abord il y a eu de nombreuses félicitations qui lui ont été adressées par tous les représentants du camp pro-européen. Félicitations pour sa campagne électorale en France, pour son engagement très en faveur de l'Europe et pour sa victoire sur Marine Le Pen qui a fait reculer le camp eurosceptique. Et c'est ensuite que sont venues les craintes, les doutes et les critiques sur sa manière de faire, sur sa façon d'aborder les choses, sur sa vision de l'Europe. Critique sur le fait qu'il privilégierait sa relation avec Angela Merkel et le couple franco-allemand. Critique sur les frappes militaires en Syrie, décidées en dehors du cadre européen avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Critique sur sa manière de vouloir faire avancer l'Europe avec un parlement de la zone euro, un ministre des Finances, le renforcement de l'union bancaire. C'est une vision de l'Europe très franco-française, ont laissé entendre certains, pour continuer à laisser la France s'affranchir des contraintes budgétaires européennes. Ensuite, Emmanuel Macron a répondu à toutes ces critiques, pied à pied et de façon parfois très musclée. Aux eurosceptiques qui l'ont accusé de ne pas respecter la souveraineté et la démocratie, c'est vous, a-t-il répondu, qui ne respectez pas la démocratie. Vous avez été élu ici par un peuple, vous ne le représentez pas. Si vous ne vouliez pas de ce mandat, il ne fallait pas venir. Sur le couple franco-allemand, jamais je n'en ai parlé, a-t-il rétorqué. C'est vous qui le faites. Moi, je pense que c'est important, mais que ça n'épuise pas le sujet européen. Et ce qu'il faut à l'Europe, a ajouté Macron, c'est que les pays qui ne veulent pas avancer n'empêchent pas les autres de le faire. Il a aussi renvoyé dans ses cordes le Belge Philippe Lambert, qui a critiqué sa politique en France, notamment la loi asile et immigration. Vous n'y connaissez rien et vous dites des bêtises, a-t-elle répondu en substance. Enfin, c'est sur la Syrie qu'il a répliqué le plus vertement. Comment, après les images que nous avons tous vues, pouvons-nous nous satisfaire de l'impuissance européenne? C'est un échange particulièrement musclé auquel on a assisté, dont on n'a pas vraiment l'habitude ici au Parlement européen, et au cours duquel Emmanuel Macron a montré une nouvelle fois qu'il était un redoutable débatteur.
Stéphane Robert, merci beaucoup avec Marcos Darras au Parlement de Strasbourg. Retour vers vous, Roxane Lundy, présidente du mouvement des jeunes socialistes. Vous avez aussi écouté donc Emmanuel Macron ce matin. Vous étiez aussi en phase, j'imagine, avec cette ambition européenne.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Emmanuel Macron nous explique que contre la menace nationaliste qui existe aujourd'hui en Europe, eh bien, il faudrait finalement plus de débats démocratiques. Alors, très bien, mais c'est presque risible quand on sait que Emmanuel Macron est aujourd'hui le président qui ne cesse d'appauvrir les pouvoirs du Parlement et qui ne laisse aucune place aujourd'hui au débat démocratique. Alors, il propose une Europe ambitieuse, c'est très bien, nous aussi on est très ambitieux en matière d'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est un échelon pertinent pour améliorer la vie des gens. Mais dans le même temps, il n'y a aucune critique des vrais sujets. Il n'y a pas été question de parler des accords de libre-échange, on n'a pas parlé de néolibéralisme, des politiques d'austérité qui aujourd'hui sont à l'origine de la crise du projet européen qu'on connaît. et qui alimente de la défiance toujours et encore de la part des populations vis-à-vis du projet européen.
Donc ce projet européen d'Emmanuel Macron, vous dites qu'il est libéral, c'est-à-dire qu'il consiste quand même à s'adapter effectivement à ce que Macron lui-même appelle ce nouveau monde qui est là et auquel il faut arriver à se déployer en suivant le mouvement.
Tout à fait.
Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Alors je ne suis pas du tout d'accord. Emmanuel Macron aujourd'hui veut nous faire croire que finalement la seule réponse intelligente qui existe face au repli identitaire, face à la montée de l'extrême droite en Europe qui est un véritable fléau, à la montée des nationalismes de tous bords, il voudrait nous faire croire que la seule solution, c'est plus de néolibéralisme, plus de politique d'austérité, plus de politique en vue de faire revenir une croissance qui, on le sait bien, ne reviendra pas de toute manière. Et puis finalement, il esquive les vrais sujets. On n'a pas un mot sur l'urgence écologique, alors qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit apporter des questions, des réponses, en tout cas à l'urgence écologique. On n'a pas un mot sur les politiques de solidarité vis-à-vis du règlement de Dublin quand il s'agit de soutenir les exilés et de favoriser leur accueil. On n'a pas un mot sur la remise en cause globale des orientations politiques prises par l'Union européenne, qui sont aujourd'hui à l'origine, en tout cas, de la défiance que l'on lui connaît.
Vous dites qu'il y a des dangers pour la démocratie en France. Bah, ils ne sont pas quand même comparables à ceux qu'on voit dans l'Europe de l'Est, par exemple, où vous faites une sorte de, comment dirais-je, de sac dans lequel vous mettez ces dérives antidémocratique un peu dans la même formule.
Vous savez, moi je n'oppose pas les dérives démocratiques entre elles. Bien sûr qu'il est absolument incomparable, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir présenter ce qui se passe en Hongrie, ce qui est absolument dramatique, à ce qui peut exister en France. Pour autant, quand on se fait le chantre du débat démocratique, il est important aussi que les actes puissent suivre les discours. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et puis, il faut aussi remettre les choses en place. Enfin, d'accord, dénoncer ce qui se passe en Hongrie, mais il faut dire aussi aujourd'hui l'Union européenne n'est pas capable d'apporter des réponses et de mettre en place des sanctions vis-à-vis des pays qui ne respectent pas les droits humains. Quelle réponse est-ce qu'on a aujourd'hui à y apporter ? Alors que dans le même temps, l'Europe est tout à fait capable de sanctionner les pays qui ne respectent pas la règle des 3% du déficit budgétaire. Donc quelle est aujourd'hui cette Europe qui marche sur la tête ? Et aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas apporté de réponse à ces vraies questions, ce sont ces vrais débats qui doivent être posés et il n'y a pas apporté de réponse.
Mais alors comment vous feriez-vous, par exemple, les socialistes, face à cette Europe-là, ça serait la même Europe, vous n'auriez pas forcément beaucoup plus de soutien pour aller dans le sens où vous voulez aller, peut-être de plus de contrôle social.
Alors à Génération, on est très clair, aujourd'hui on est en train de mettre en place une initiative au niveau européen avec un ensemble de partenaires. Donc aujourd'hui, Benoît Hamon et Yanis Varoufakis travaillent ensemble pour faire émerger, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on a appelé l'appel de Naples, un vrai programme conjoint avec toutes les forces progressistes en Europe qui aujourd'hui refusent finalement d'accepter que la seule réponse contre la dérive nationaliste, ce soit la réponse néolibérale d'Emmanuel Macron. Et ça consiste à dire qu'aujourd'hui, entre les européens néolibéraux dont font partie, en tout cas, les chantres du néolibéralisme et Emmanuel Macron, et de l'autre côté, ceux qui se complaisent dans un discours très eurobashing et qui n'ont rien à apporter, en tout cas, et rien à garder du projet européen, nous considérons qu'il y a une voie, que l'échelon européen, nous en avons besoin pour apporter des réponses aux grands défis de notre
d'accord.
temps.
Bon, il y a une voie, mais où elle est la voie ?
Bah, cette voie, c'est celle que nous sommes en train de construire avec l'ensemble des forces progressistes.
Avec, ça consiste en quoi ?
Cela consiste aujourd'hui à défendre un New Deal en matière écologique et en matière démocratique, à investir massivement dans les services publics, dans la transition écologique, pour faire repartir, en tout cas, l'économie au niveau européen et surtout mettre le citoyen au cœur du
Donc,
projet européen.
Il faut refaire toutes les institutions européennes.
Bien sûr,
et
qu'il
la
faut les refaire.
Et tout ça.
C'est ça, faire, ouais. faire preuve d'ambition quand il s'agit d'Europe, beaucoup plus que de faire un discours qui consiste à dire, attention, les discours nationalistes sont dangereux, on le sait.
Merci beaucoup, Roxane Lundy, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, présidente du mouvement des jeunes socialistes. On finit avec une initiative plutôt rare, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui émettent une alerte conjointe face à une activité cybernétique malveillante en provenance de la Russie et qui viserait, Antoine Gignot, à la fois les administrations et les infrastructures.
C'est une alerte générale. Les experts du Centre national de cybersécurité britannique, comme ceux du FBI, parlent de menaces pour la sécurité et la santé économique des deux pays. En donnant des détails techniques, ce sont les routeurs et les pare-feux qui sont visés par de potentielles attaques russes, les dispositifs qui servent à transmettre les informations numériques et à protéger les sites sensibles. Il y a des risques pour les administrations, les infrastructures nationales, les entreprises, les particuliers et la possibilité éventuelle de bloquer une une usine ou une centrale électrique. Les attaques permettent de placer au cœur des réseaux informatiques des mouchards électroniques capables d'enregistrer le contenu des ordinateurs pour lancer de potentielles opérations agressives, précise le ministère américain de la Sécurité intérieure. Les États-Unis évoquent une vague d'opérations hostiles déclenchées par les agences russes de renseignement sur le modèle du piratage des messages électroniques du Parti démocrate en 2016 pendant la campagne menée par Hillary Clinton.
La météo avec du soleil sur la plupart des régions, des températures en hausse 15 à 26 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.